Bonjour Jean-Paul Desbras.
Bonjour Jean Petot.
En mars 2025, la librairie Mola vous a reçu pour la présentation de votre histoire des Girondins, publiée chez Perrin. Vous poursuivez en votre qualité d'historien original votre œuvre considérable sur la Révolution française avec une biographie s'ajoutant à celle d'autres grandes figures révolutionnaires de votre part. Je pense ici à votre Mirabeau, publié en 2008. Cette fois-ci, c'est une biographie consacrée à Georges-Jacques Danton. Alors, je donne, comme on dit, les bornes biographiques, 1759-1794, 35 ans. Hein. D'emblée, dès votre sous-titre, vous évoquez la profonde complexité du personnage en ce qui concerne son jugement par l'histoire. Votre sous-titre, c'est « Bonhomme ou démon ». Un très beau sous-titre. Comment est-ce que vous expliquez que Danton, en dehors de la dimension très inspirante du personnage, puisse faire ainsi l'objet de deux qualifications contradictoires ou paradoxales?
Tous ses amis s'accordent à le trouver sympathique. Et puis là, il y a cette vie débordante, l'homme qui joue aux échecs tous les soirs après avoir discuté. Et puis, quand on n'est pas d'accord, il dit « Bon, ben allons manger la poularde ». Ça, c'est le côté extrêmement sympathique. Et on va voir qu'ensuite, il peut être terrible quand il faut épouser les passions du peuple, quitte à réparer le lendemain. C'est ça, vraiment ça. On le verra surtout dans le procès du roi. Dans le procès du roi, au départ, il promet à Théodore de Lamet, qui vient au risque de sa vie parce qu'il est proscrit, le supplier de sauver le roi. Il lui promet de sauver le roi. Puis, il y a le discours de Saint-Just, le 7 novembre, et il comprend que la passion est un torrent et qu'il faut accompagner cette passion, quitte, après que cette passion se soit exorcisée, à réparer. C'est un peu toujours... On le verra dans le 2 septembre, on verra tout ça. C'est l'homme qui comprend plus que tous les autres et qui accompagne les passions du peuple, même quand elles sont terribles.
Alors, on va commencer par les origines du jeune Danton. Comme je l'ai dit, il naît donc en 1759, le 6 octobre. On est en plein milieu du 18e siècle, à Arcis-sur-Aube. C'est un gros bourg qui est situé à une trentaine de kilomètres de Troyes, en Champagne. Il va vivre son enfance dans une famille nombreuse du fait du remariage de sa mère. On dirait de nos jours, remariage de sa mère consécutivement à un veuvage, hein, on dirait de nos jours une famille recomposée. Mais enfin, c'est pas tout à fait ça, puisque en fait, il y a deux lits. Il grandit au milieu d'une fratrie de 10 frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs. Dans quel milieu social y grandit le jeune Georges-Jacques ?
Des paysans à l'aise, des paysans qui ont grappigné la terre petit à petit, cette terre crayeuse de la Champagne, et qui sont des gens madrés. Alors, il y a qui se sont élevés, puisqu'il y a un oncle qui est entrepreneur de maçonnerie, un oncle qui est curé, un oncle qui est juge local, petit magistrat, une sorte de notaire local, et son père qui était un paysan avec des fonctions municipales. Une fois qu'il est mort, sa mère se remarie avec Monsieur Recordin. Et Recordin, et ça c'est très important en Champagne, parce que c'est la province de la bonneterie. Et Recordin est un entrepreneur de bonneterie et qui s'est lancé. C'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que la bonneterie de laine, mais petit à petit, et c'est ce qui marche au point de vue commercial, il est un des premiers bonnetiers de coton. Et il va être passionné, on va le voir d'ailleurs, quand Danton va l'accompagner à Londres pour voir les machines performantes anglaises pour fabriquer des bas en coton.
Mais c'est un sauvageon un peu. Enfin, il est particulier, quoi.
Alors, je pense qu'une des choses dont je me suis presque assuré à la fin, c'est qu'il est dyslexique.
Ah, d'accord.
Et voilà. Et alors, c'est pour ça qu'il aura toujours beaucoup de mal à écrire. Et c'est la mémoire, apprendre des textes. Alors, il va apprendre des textes par cœur. et ce qui va lui donner ce don fabuleux de l'improvisation. Mmh, mmh. C'est le grand improvisateur. Alors, j'ai étudié Mirabeau, qui est un improvisateur de génie, mais je pense que Danton, c'est encore plus puissant comme la promptitude de la réplique. Et c'est ça qui va faire de lui un meneur d'hommes.
Oui, parce que vous, dans le livre qui est passionnant, hein, qui est un gros livre, il y a des extraits de ses interventions à la salle du manège. Enfin, on va y revenir, mais c'est incroyable. On dirait pratiquement des dialogues écrits dans le cadre d'une scénarisation, quoi. Hein, voilà. Alors, je reviens à lui. Vous citez vous-même Danton, qui dira de lui, une fois devenu adulte, toute habitude était antipathique à mon caractère. Ça, c'est une phrase, je trouve qu'elle dit bien les choses. Alors, on a l'impression, quand on le lit, que c'est le jeune Achille qui étrangle les deux serpents que la déesse Héra a mis dans son berceau pour histoire de l'oxyre un peu. Vous dites, il marche à 6 mois, il parle presque 6 mois après, c'est un colosse. À l'adolescence, il a plusieurs accidents, il a le nez fracassé, écrasé par un taureau, il attrape la petite vérole, bon ça c'est un accident différent. On dit de lui, dites-vous qu'il a une face de tartare, c'est une espèce de colosse avec des airs de Quasimodo, mais c'est une intelligence déliée qui fait de bonnes études chez les oratoriens. Avant de rejoindre Paris en 1980, vous dites qu'il est passionné par la lecture, il dévore les livres, mais ses maîtres notent sa « rétivité », entre guillemets, autrement dit, son indiscipline prononcée. Alors, j'ai noté une espèce de, vous appelez ça, une singulière affectation de coquetterie nobiliaire. Il se fait appeler Danton, D'Anton, mais c'est pas le seul à faire ça.
Brissot, qui est de Chartres, son père a un territoire qui s'appelle Warville, il se fait appeler Brissot de Warville. Robespierre n'était pas aristocrate non plus, et donc c'est un des moyens pour les jeunes gens ambitieux, à la veille de la Révolution, de faire tout ce qu'ils vont condamner, qu'ils vont condamner 5 années plus tard. Mais et avec lui, il le fait avec cette... Il y a une espèce de lourdeur et en même temps de légèreté dans la façon de voilà. Et c'est vrai qu'il est élevé comme... Il est véritablement élevé comme un sauvageon. L'accident dont vous parliez est assez drôle, d'ailleurs, parce que il était tellement glouton qu'il avait épuisé le lait de ses nourrices et qu'on l'avait donné, comme on fait parfois... Et je l'ai entendu, ça, moi, dans mon Auvergne. On mettait les enfants à téter directement le pis d'une vache.
Ah oui.
Et les enfants s'habituaient. Et alors un taureau devenu jaloux lui a donné un coup de pied et lui a donné ce mufle.
Ouais.
C'est un mufle. La nature m'a donné la figure âpre de la liberté.
Ouais.
Voilà. Ouais. Et c'est cette figure qu'il va promener à travers la Révolution. Mon éditeur, Anthony Rollet, qui est un homme qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi, m'a dit... Un jour, il faudra que tu fasses le deuxième affreux de la Révolution, le premier étant Mirabeau,
ouais,
et le deuxième étant Danton.
Ouais, ouais.
Ce sont des figures,
ouais.
Ce sont les deux atlas de la Révolution.
Alors, j'ai oublié de préciser que c'est aux éditions du Rocher, hein, que justement, puisque vous parlez de votre éditeur. Alors, il fait plutôt un bon mariage, avec une belle dot qui va lui permettre de s'installer professionnellement. Mais comme vous le soulignez, passe 14... Jusqu'à ses 27 ans, en 1787, il reste parmi des dizaines d'autres un praticien sans pratique. C'est que le corps des avocats est pléthorique à Paris. La carrière, comme j'aime auparavant, attire de tous les horizons quantité de jeunes gens ambitieux. Georges a beau se distinguer de ses confrères par sa carrure, par sa hure, par sa voix puissante, son rire... Nul ne parierait un liard sur la fortune à venir de ce gros et grand gaillard. Et il rencontre quelqu'un qui va avoir un rôle important, c'est le père Charpentier, qui est un limonadier et qui a, comme on dit à Paris, puisque Danton y est à partir de 1780. C'est un homme de réseau à Paris, Charpentier. Alors, présentez-nous Charpentier.
Alors voilà, le jeune Danton, pendant 5 ans, a été vraiment employé chez des avocats pour grossoyer. C'est-à-dire grossoyer, c'est décrire la grosse, le qui existe toujours en droit, c'est le titre exécutoire d'un jugement. Donc c'était des copistes. Et puis son patron a bien vu que ça l'embêtait, donc il l'a chargé d'aller au palais de justice pour prendre rang. Et alors, il bousculait tout le monde, il prenait rang dans les affaires, et ses patrons étaient très heureux parce qu'ils arrivaient à placer leurs affaires. Et en sortant, il allait au café du commerce. Et le café du commerce, il serait à l'emplacement de la Samaritaine actuelle.
D'accord.
Voilà. Et là, il y a le père Charpentier qui a des fonctions parce que il a acheté un petit titre de justice, mais qui en même temps a sa serviette sous le bras et sert les clients. Et il est devenu très riche. Il brasse lui-même sa propre bière et il a une fille, Gabrielle, qui est une fille assez opulente. David a fait son portrait. Et Gabrielle, il y a une dot extraordinaire parce qu'il y a une dot de 80 000 livres, ce qui est quelque chose d'important à l'époque. Tout le monde tourne autour de Gabrielle et c'est Danton qui va emporter le morceau, qui va emporter Gabrielle. Danton est extraordinaire. Il a appris quand il était au collège, quand il était chez les oratoriens de Troyes, il a appris l'anglais et l'italien en lisant. Et il se trouve que la mère de Gabrielle est italienne. Donc il arrive à la séduire en lui racontant des choses. Et donc il va être établi par son beau-père. Et ça, c'est très important. Il va acheter une charge qu'il va acheter 80 000, c'est le prix de la dot, qu'il va une charge d'avocat S-Conseil. Alors ça, c'est très important parce que il y a 80 avocats S-Conseil. On pourrait dire aujourd'hui, ce sont les avocats au Conseil d'État.
Ah oui.
C'est-à-dire les avocats qui sont chargés de régler les litiges des particuliers et de l'administration. Et il se fait une spécialité, on revient à l'aristocratie, il se fait une spécialité étonnante, c'est de rétablir les titres de noblesse de ceux qui n'ont pas, qui sont en train de perdre leur noblesse ou dont on conteste la noblesse.
D'accord.
Et il est très brillant. Et il fait aussi, il va créer, alors moi je suis juriste et ça m'a assez impressionné, il va créer le concept de délégation de service public. En travaillant pour un certain Martin, qui construit des bateaux dans le delta, dans la Rance à Saint-Malo, et qui va créer le premier service de paquebot, 3 paquebots, qui vont faire Le Havre-New York, et qui vont fonctionner assez mal, mais qui vont fonctionner pendant 6 ans, et il va obtenir du chancelier, il n'y a pas de chancelier, du garde des Sceaux, Louis XVI. On est déjà sous Louis XVI. Louis XVI n'a jamais eu de chancelier parce qu'il avait renvoyé Maupeou et le roi pouvait renvoyer le chancelier, mais il pouvait pas lui reprendre son titre de chancelier. Ce qui fait que Maupeou disait tous les matins, mon dernier P sera un P de chancelier. Et donc il va créer ce contrat qu'il va aller négocier à Versailles juste avant la 1789, ce contrat de service public de paquebot. Et il va créer ce concept nouveau du droit.
Alors justement, puisque vous évoquez la période pré-révolutionnaire, vous dites que contrairement à d'autres, par exemple Sieyès, Robespierre, Brissot, Danton entre tard en révolution. C'est-à-dire que, manifestement, on dirait aujourd'hui, pardon pour l'anachronisme, mais c'est un avocat d'affaires, enfin, donc il est préoccupé, par, enfin, il s'implique dans son, vous venez de le dire, dans son activité juriste et professionnelle, vous l'avez dit, Jean-Paul, et on ne trouve pas véritablement de sa part d'écrits antérieurs aux événements. Et même, qu'est-ce qui fait pendant la période entre le serment du jeu de paume et la prise de la Bastille? Dans le livre, vous dites qu'il est plutôt spectateur, non?
Oui, il est spectateur, il s'occupe de son cabinet d'avocat. Et il est simplement à l'époque, Paris est divisé
en districts,
en 60 districts qui vont devenir 48 sections. Justement, ça va être un de ses combats en fait, parce qu'il aurait voulu qu'on maintienne le système des districts. On va expliquer pourquoi. Et donc, là, sa seule fonction, c'est qu'il va être au bureau électoral de ce district des Cordeliers. Alors, ça, c'est très important, l'endroit où il s'installe. Et on peut exactement voir l'endroit où il était installé. C'est là où il y a sa statue actuellement sur le boulevard Saint-Germain, parce que la cour du commerce qui est derrière le café Procope, qui commence rue Mazet et qui était prolongée, elle a été coupée par la construction du boulevard Saint-Germain. Et elle était beaucoup plus longue. Et la maison de Danton était exactement à l'emplacement de la statue qu'on a mis au bord du trottoir du boulevard Saint-Germain. Et alors, ce district est très important parce que c'est là qu'il y a les librairies, les imprimeurs. Marat, qui est déjà journaliste, a ses bureaux. D'ailleurs, vous avez derrière le Procope, elle est toujours là, visible, la cloche qui est toujours en 2025, que sonnait Marat quand il avait terminé un article pour que les protes viennent chercher le... Alors, il va s'installer là. Camille Desmoulins sera aussi un moment dans cette cour du commerce. Et il y a toutes les grandes librairies, les journaux et tout ça. Donc, c'est l'endroit, c'est le ferment de la Révolution. Or, Danton ne va rentrer, il a juste ses fonctions électorales au district. Les deux choses qui le font rentrer en révolution, c'est qu'il décide que le bureau du district sera maintenu après les élections des États généraux. Donc, il maintient une cellule dormante, un peu d'agitation politique. Voilà. Et il ne apparaîtra véritablement sa première action, c'est le lendemain du 14 juillet, où il décide. Alors, parce qu'il s'oppose tout de suite à la municipalité. La municipalité, c'est quoi? C'est Bailly et Lafayette. Lafayette qui est le chef de la... Alors, il s'oppose tout de suite parce que il sent que ce sont des gens plus modérés que lui. Et la Bastille a été prise donc le 14 juillet, comme tout le monde sait. Et le 16 juillet, Lafayette nomme un commandant pour garder la Bastille, qui s'appelle Soulès. Et c'est le premier acte de Danton. Il va aller arrêter Soulès pour le traduire devant un tribunal improvisé au Cordelier. Voilà. Et évidemment, il va tout de suite se faire désavouer par la municipalité de Paris. Il va être obligé de libérer Soulès. C'est son premier acte révolutionnaire. Son premier acte révolutionnaire, c'est 48 heures après la chute de la Bastille.
Mais alors, ces districts, puisque vous nous disiez, Jean-Paul, qu'il y en avait plus de 70, c'est ça ?
Il y avait 60 districts.
D'accord.
Qui vont devenir 48 sections.
Alors, ces districts, voilà. C'est quoi? C'est des quartiers? C'est
des quartiers. Ça correspond en gros aux anciennes paroisses.
Ah oui, d'accord.
La division en districts était déjà sous Louis XVI.
D'accord.
C'était déjà sous Louis
XVI. D'accord.
Et alors, ce que Bailly va vouloir faire, c'est de un peu tripoter la carte électorale. Et dans le cas du district des Cordeliers, il veut l'agrandir. Pourquoi l'agrandir? Parce qu'il va l'agrandir du côté du théâtre de l'Odéon, qui est déjà construit. Parce que le théâtre de l'Odéon, c'est le frère du roi qui habite là. C'est monsieur, le futur Louis XVIII, qui habite au palais du Luxembourg. Donc, ce district qui commence à être agité, on va rajouter tout d'un coup une partie beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus aristocrate, surtout, qui doit normalement calmer les ardeurs de ce district dont on craint déjà beaucoup de choses.
Alors... On comprend, parce que vous le dites très, très bien et très clairement, qu'il a dans le collimateur Lafayette. Alors Lafayette qui est très populaire, parce que c'est, comme on dit, l'homme des deux mondes. Enfin, voilà. Donc qui est à la tête de la garde nationale, mais qui effectivement est suspect, parce qu'il est tout le temps en train de louvoyer Lafayette.
Exactement. Et on va voir l'évolution de Lafayette va aller vers... tout en étant détesté de la cour, Lafayette va s'évertuer à défendre la cour. Et donc, le point d'attaque que va trouver Danton, c'est de s'attaquer. Il est juriste, il travaille donc au palais de justice, mais il y a traditionnellement à Paris la justice, la police et une grande quantité d'affaires particulières sont dévolues à une autre instance qui est le Châtelet. Et le Châtelet s'arroge tout d'un coup, le Châtelet qui est avec des magistrats héréditaires et extrêmement rigoristes, va s'arroger le jugement des affaires politiques. Beaucoup plus que la justice civile et criminelle qui poursuit son cours, le Châtelet, au nom de la police, va... Et c'est le grand combat de Danton, le premier grand combat de Danton, qu'il va gagner. Il va gagner puisqu'il va arriver à mettre dans sa poche tous les gens qui ont à souffrir du Châtelet, et il va obtenir, en 7 mois, il va obtenir la suppression du tribunal du Châtelet, qui va être remplacé pour les affaires politiques par le tribunal d'Orléans, la haute cour d'Orléans. Voilà, qu'il faudra un certain temps pour mettre en place.
Sur ces quartiers, en quelque sorte, vont apparaître des lieux qui sont des lieux de débat, des lieux d'échange, et ce sont les fameux clubs. Hein. Et donc, au district des Cordeliers est associé le club des Cordeliers.
La création qu'il le crée assez tard, hein, en 1790, à l'été 1790, avec son ami Camille Desmoulins. Et donc, il va créer ce club des Cordeliers, qui est le club en pointe. Sauf que petit à petit, on va le voir, il va s'en faire un peu dessaisir par des gens plus à gauche que lui. Et à la fin, Hébert va prendre le pouvoir. Hébert, qui était un de ses amis, mais qui, le père Hébert, avec son langage ordurier, sa violence, etc., va arriver petit à petit à faire partir l'équipe Danton. Mais le génie de Danton, c'est d'être le matin au Cordelier et très vite l'après-midi au Jacobin. Ouais, ouais. Il est dans les deux clubs. Ouais. Voilà. Alors, deux clubs avec des esprits tout à fait différents, parce que y a pratiquement pas de cotisation pour être au Cordelier. C'est un sou par mois. Hein. Et quand on peut pas payer, c'est et y a même un tronc devant pour les pauvres. Alors que au Jacobin, où c'est Brissot qui au départ, et Robespierre va petit à petit évacuer Brissot, il y a une cotisation qui est très très forte. C'est la défense de la révolution bourgeoise en plein. C'est le club des Jacobins. Et le génie de Danton, c'est d'avoir un pied dans chaque club.
Il faut bien comprendre, je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, c'est aux Jacobins que d'abord, avec Brissot, vont être majoritaires les Brissotins, que Lamartine, au 19e siècle, appellera les Girondins. Hein. Faut bien comprendre ça, hein. Sinon on s'y perd. Hein. Voilà. Bon. Alors,
le grand homme en 1790 encore, c'est Brissot, mais Robespierre, monte. Son génie tactique, il y a un génie tactique pervers de Robespierre. Robespierre va éliminer les Brissotins les uns après les autres.
Alors, ce qui est fascinant chez Danton, et vous le notez très bien, en reprenant les grands biographes, hein, vous citez Michelet, qui a une belle formule, ça c'est page 109, à propos de ce qu'on peut appeler les réseaux Danton. Michelet dit « Danton, en qui vibrait toute vie, eut toujours sous la main, un vaste clavier d'hommes ». C'est une très belle formule. Et Thiers n'est pas en reste. Adolphe Thiers dit, il est plus cru que Michelet, parce qu'il a une pratique de la politique Thiers qu'il n'avait pas Michelet. Mais voilà ce que dit Thiers. Danton était le plus redoutable chef de ces bandes qu'on gagnait et conduisait par la parole, mais audacieux, entraînant au moment décisif. Il était capable seulement dans un moment d'hésitation de les ranimer et de les porter au but d'une impulsion décisive. Alors, c'est quoi la bande à Danton ?
cosmogonie complètement hétéroclite.
D'accord.
Vous avez le gendre, le gendre, qui est aux grandes boucheries de Saint-Germain, qui intervient toujours avec son tablier maculé de sang dans, tout, dans toutes les... Vous avez Camille Desmoulins. Camille, alors Camille, c'est un... Il n'est pas si tendre que ça, Camille. Il donne, quand on voit Patrice Serrault le jouer avec un côté romantique, dans le très beau film de Vajda, il peut être terrible. Par exemple, nous parlions tout à l'heure des Brissotins. Son histoire des Brissotins a énormément joué dans la chute des Girondins. Parce qu'il a été d'une méchanceté, mais une plume extraordinaire. Mais en même temps, quelqu'un qui est capable de larmoyer toute la journée. Grand esprit, grand... Vous avez des aristocrates dévoyés, comme Monsieur de Saint-Huruge. Vous avez un ancien timonier de bateau, Chaumette. Chaumette qui aura dit qu'il faut, si le peuple a faim, il faut qu'il mange les aristocrates. Voilà. Vous avez une cosmogonie. Et puis ses amis d'enfance, Béon, ses amis qu'il a eu, dont il va faire des ministres plus tard, Béon, et qui sont des, il a un sens de l'amitié extraordinaire. Il a un sens de l'amitié que n'a pas, que évidemment n'a pas Robespierre. Et c'est un Danton, il y a c'est ce côté là, quand je parle du bonhomme, c'est le côté bon garçon. Il y a le côté bon garçon dans l'amitié. Et sur la politique, ça va être autre chose. Parce que, il va, comme on le disait tout à l'heure, il va comprendre qu'à certains moments, il faut être impitoyable.
Mais est-ce que cette amitié, cette fraternité, on peut dire, est-ce que ça va le conduire à faire des erreurs politiques ?
Écoutez, en définitive, je ne pense pas. Je pense que c'est une des trajectoires les plus efficaces, avec ses monstruosités, tout ça. C'est une des trajectoires les plus efficaces. Et en particulier, et c'est le gros morceau, on va en parler, dans la guerre, dans les affaires étrangères. Et la façon dont il a, cette façon qu'il a surtout, d'avoir de sortir toujours de sa sphère de compétence. Hein, quand il sera au comité de salut public, il est chargé de l'intérieur, mais il s'occupe de la guerre et il nomme tous les ambassadeurs et il s'occupe des affaires extérieures. Ça va être la même chose au 2 septembre. Le 2 septembre est une journée fabuleuse. C'est le jour du discours de l'audace, parce que les Prussiens sont en train d'arriver.
On va y venir.
Et en même temps, c'est à 16h, c'est le début des massacres. Dans le même après-midi.
Je termine sur la personnalité qu'on peut effectivement qualifier d'ambivalente. Vous dites c'est à la fois c'est un homme pressé et un homme adulé. Vous dites c'est un juriste, mais c'est quelqu'un de précis, mais c'est effectivement il est rabelaisien. Bon, le matin, vous dites, il s'écrit qu'il faut pendre ces bougres de députés, et l'après-midi suivant, il vient humblement à la barre du manège, de la salle du manège, présenter une pétition. Attention, hein. Pour que la personne qui aurait abusé de la femme ou de la fille de son voisin ne puisse jamais prétendre au titre de citoyen actif. C'est incroyable.
Ce sont les seules féministes. Ouais. Parce que Robespierre est épouvantable avec les femmes.
Oui.
Quand il pense qu'il y a une femme dans une assemblée. Mais avec, ils ont ce côté de défense des femmes qui est une chose extrêmement moderne. Pétion et lui.
Alors, il y a autre chose, c'est que vous dites sa renommée est si fulgurante que pour beaucoup, il ne peut être qu'autre chose qu'un agent provocateur salarié par la cour ou par l'Angleterre. On va revenir sur la suspicion. Et pour d'autres, un simple bouffon. Et lui, il ne dément ni l'une ni l'autre des catégorisations.
Il joue de tous les registres. Et effectivement, la suspicion est là dès le départ. Suspicion, est-ce qu'il a été acheté par la cour? Très certainement. Mais comme beaucoup d'autres. Mais acheté par la cour, avec un cynisme incroyable. Il m'achète, mais je fais ce que je veux.
C'est ça. Oui. Vous dites... En vérité, Danton, même salarié par la cour, trahissait la cour sans aucun scrupule. Il éprouvait même une secrète jouissance à berner ceux qui croyaient pouvoir l'acheter.
Exactement, exactement. Et alors, il va arriver comme ça, si vous voulez, à mener des combats politiques. Une de ses réussites après l'éradication du tribunal du Châtelet, ça sera le renvoi de 3 ministres. Il va mener une campagne contre 3 ministres à propos d'une affaire qu'on appelle l'affaire de Châteauvieux, qui est très importante parce qu'elle revient plusieurs fois dans son affaire. C'était des soldats, la plupart étaient suisses d'ailleurs, qui s'étaient révoltés à Nancy. Et alors, et c'était le Bouillet, l'homme qui organise Varennes, qui va fusiller avec l'accord de Lafayette. Il va fusiller une vingtaine de ses soldats et déporter les autres au bagne de Brest. Et donc, ça va être un des grands combats de Danton, de combattre les ministres qui refusent d'amnistier les bagnards de Brest. Voilà. Et on arrive, c'est le combat qu'il mène au moment où le roi part à Varennes au mois de juin 1791.
Alors, avant d'avancer dans le temps, il y a quand même, vous dites, il est à l'aise partout, vous avez cette belle expression, il picore, hein, sans jamais se brouiller avec personne, c'est ce que vous disiez, Jean-Paul, tout à l'heure, il vient applaudir Robespierre aux Girondins, aux Jacobins, lapsus, il émerge peut-être à la cassette du roi, il soupe avec Dumouriez. Alors, il y en a une avec qui ça va pas du tout, c'est Madame Roland. Alors, pourquoi il la supporte pas et pourquoi elle, surtout, elle le déteste? Pourquoi?
C'est elle. Elle, dès le départ, c'est le cyclope, c'est l'homme malpropre. Ouais. Voilà. Il y a une antipathie absolument incroyable et elle a des lettres absolument terribles où son physique atteste de sa malhonnêteté. Elle l'écrit, elle est terrible. Et c'est elle, pour moi, je l'ai déjà écrit dans mon histoire des Girondins. Un des grands malheurs, c'est que les Girondins ne se soient pas entendus avec Danton. Mmh. Ils avaient très peu de choses, les différenciés. Mmh. Il y avait, par exemple, une défense forcenée du droit de propriété. On va voir que Danton, le révolutionnaire, est un des hommes les plus attachés à la défense du droit de propriété. Et d'ailleurs, il est habile, parce que chaque fois qu'il gagne de l'argent, essentiellement honnêtement, et parfois aussi avec les subventions de la cour, il va faire grossir son domaine d'Arcy-sur-Aube. Il part chez le notaire pour acheter des lopins de terre et tout ça. Un homme très avisé, et quand, par exemple, il faut de l'argent pour soutenir la guerre, il vote les impôts forcés, mais à chaque fois il intervient, mais ça sera sous réserve d'indemnisation future. Donc, et par ce libéralisme, puisque pour moi les Girondins sont les hommes qui ont planté les graines du futur libéralisme qui va irradier tout le 19e siècle, Danton était proche d'eux. Et là, il y a une grande responsabilité de Madame Roland.
Grande responsabilité. En dehors de cette espèce de ressenti, j'allais dire presque primaire, hein, qu'elle le déteste, est-ce qu'elle était très avisée politiquement? On le sait, hein, c'était quand même une intelligence rusée au sens de métisse du côté de la politique, Madame.
En même temps, il y avait un côté parfois. Elle a une plume extraordinaire, une meneuse d'hommes. Elle a su faire toute la carrière de son mari. C'est elle qui tenait la plume de Roland.
Hein. Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Mais elle a beaucoup embrouillé, même parfois sentimentalement, puisqu'elle est tombée amoureuse de amoureuse sans qu'il ne se passe rien de 3 des Girondins, qui ensuite vont avoir maille à partir entre eux. Donc, mais quelle femme extraordinaire!
Vous parliez de la, des bonnes relations avec les Girondins. Ça nous amène à, effectivement à la guerre. Mais avant cela, vous avez une formule. J'aimerais vous reprenez une formule de Barthou à propos du rapport entre Danton et la République. Et je voudrais que vous l'expliquiez, parce que Barthou dit « Danton lui-même ne se dit pas républicain, mais la lecture de Plutarque et de Corneille ont fait de lui un républicain théorique. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, selon vous?
Alors là, voyez, il faut revenir à Varennes, parce que ce moment... Oui. Varennes, c'est ce moment... Mona Ouzouf dit la saison fugitive de l'idée républicaine.
Oui, oui, oui.
Donc, parce que le roi trahit le départ, puisque le roi s'éloigne à 20 lieues. Normalement, à cause des décrets qui avaient été votés 2 mois avant Varennes, s'il s'éloignait, il était réputé avoir abdiqué, hein, s'il ne revenait pas à sa place. Donc, là, se pose à ce moment-là. L'idée de république, et paradoxalement, ce sont les Girondins, c'est Brissot qui va demander qui va parler de destitution ou de suspension du roi, parce que on fait que la constitution est toujours en travail, elle n'est pas encore votée, de suspension du roi. Et Danton va aller un peu plus loin, c'est la mise en accusation du roi. Donc il va y avoir ce moment où l'habileté de Barnave et de Lafayette va faire que le roi va être exonéré. Danton ne défend pas l'idée de république, il défend l'idée de mise en accusation du roi. Et tout ça va se traduire, Varennes, c'est le 20 juin, ensuite la fête de la Fédération, qui sera une fête au rabais, qui n'aura pas le lustre de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, donc celle de 1791, va très mal se passer, puisque 3 jours plus tard, sur cet hôtel du Champ de Mars à Paris, va avoir lieu une fusillade. Une fusillade après que les Jacobins aient chargé 3 personnes, Brissot, Chauderlot de Laclos et Danton, d'écrire une pétition que le peuple viendrait signer pour demander la mise en accusation du roi. Et là, Danton commence... C'est là, vous me parliez du républicanisme de Danton. Il est en deçà des espoirs du peuple. Et le texte de Chauderlot de Laclos, de Brissot et de Danton est retoqué par le peuple. Ils sont obligés de fuir presque sous les injures. Et c'est une version rédigée par Robert, qui est aussi un cordelier, mais qui est plus en avant dans les idées, et sa femme Louise de Keralio, qui sera déposée sur l'autel de la patrie. Et une heure après, Lafayette arrivera et va tirer sur la foule. Et c'est à ce moment-là que va se reproduire ce que Mathiez, l'historien communiste de la Révolution, appelle la petite terreur feuillante. Oui. Et c'est à ce moment-là que Danton va devoir quitter la France pendant 3 semaines. Il va devoir aller à Londres, se cacher, et il revient armé d'idées raisonnables. Mais ça ne va pas durer.
Oui, oui, parce que là, effectivement, ça nous amène à ce point essentiel qui est le rapport à la guerre. Vous dites que Danton est passé d'un pacifisme à un bellicisme raisonné. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que cette date du 10 août, on a l'impression, elle est très importante, elle est moins connue des Français que celle du 14 juillet 1789, mais par exemple, c'est un vrai tournant. Le Jean Massin parle d'une seconde révolution. Qu'est-ce qui se passe le 10 août?
Allez-y. La guerre, c'est l'œuvre des Brissotins. Hein, c'est Brissot qui veut la guerre. Il veut la guerre dès la fin de 1791. Il veut la guerre pour éprouver Louis XVI. Est-ce que Louis XVI est capable d'aller chasser les émigrés qui sont massés sur les frontières? C'est un test.
C'est son beau-père, là. En plus, c'est son beau-père.
Voilà, voilà.
Il s'agit du beau-père.
Oui, 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 oui. Voilà. Oui. Et son beau-frère encore à l'époque.
Oui.
Léopold.
Oui, oui, pardon. Oui,
il la guerre est déclarée parce que Louis XVI est obligé d'appeler le ministère brissotin, les amis de Brissot, en la personne de Roland, de Clavière, qui vont être appelés. C'est ce ministère brissotin qui va durer du mois de mars jusqu'au 12 juin 1792. Et qui va, ces brissotins qui ont voulu la guerre, ne l'ont pas préparée. Elle va être une catastrophe. Dès le 20 avril, la guerre est déclarée le 20 avril, et c'est le massacre de Quiévrain, où le brave Dillon arrive, il est massacré par ses propres hommes. Le chef français est massacré par ses propres hommes. Et alors, au départ, la position de Danton, c'est la même que celle de Robespierre. Ils comprennent que cette guerre est dangereuse, qu'elle n'est pas préparée. Ils sont contre. Mais il va se créer une différence entre Danton et Robespierre, parce que Danton va évoluer. C'est lui qui va poser la théorie en une année des frontières naturelles. La théorie des frontières naturelles va lui permettre, dans un premier temps, puisqu'il va très vite s'occuper des affaires étrangères, les frontières naturelles sur les Pyrénées, il n'y avait aucun problème, mais sur les Alpes, ça permet déjà de récupérer d'assimiler à la nation le comté de Nice et la Savoie. Et ensuite, il va avoir beaucoup plus de mal, et on va le voir dans ses opérations avec Dumouriez, parce que un des poids que va avoir à supporter Danton, c'est cette amitié, le soutien qu'il va porter trop longtemps à Dumouriez, qui est un traître en définitive, qui veut rétablir la monarchie. Voilà. Mais qui en même temps est un grand soldat. C'est l'organisateur de Valmy, c'est l'homme de Gemap, etc. Danton va évoluer vers cette idée des frontières naturelles. Et à partir du moment où la France est attaquée, c'est l'homme de la défense nationale. C'est vraiment le grand homme Je raconte une anecdote, si vous me permettez. J'ai visité un jour tout seul le bureau du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Eh bien, écoutez, dans cette bibliothèque où il y a des livres, c'était pas un bibliophile, c'était des livres d'un raisonnable usage derrière des grillages, il y a une seule statue, petite statuette comme ça. C'est Danton.
C'est vrai.
Et le discours du 2 septembre sur l'audace, ouais, quand la France va être envahie, c'est le 18 juin.
Oui.
Le 18 juin, c'est l'homme de la défense. Il n'est pas pour la guerre, mais à partir du moment où la France est attaquée, c'est l'homme qui va organiser la victoire.
Je reviens sur le rôle de Danton dans les événements. Parce que là, il y a un débat. À chaque fois, quand il y a un événement important, par exemple le 10 août 1792, c'est là qu'il devient ministre. Mais c'est aussi la commune insurrectionnelle de Paris. C'est la chute du trône et c'est ça se traduit quand même au total par 1000 morts des deux côtés. Bon, et le débat c'est: quel rôle a joué Danton, par exemple, dans un événement comme celui-ci? Vous dites vous-même, page 128, entre Robinet, l'historien le plus louangeur de ses biographes, qui prétend qu'il a tout fait, et Mathiez, dont vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Paul, historien marxiste, qui réduit son rôle à presque rien, il semble qu'on puisse suivre Hollard lorsqu'il affirme: il incarnait l'esprit du peuple qui allait faire le 10 août.
Exactement. C'est ce que j'expliquais déjà un peu en début d'entretien. C'est-à-dire qu'à un moment, il sent que la furie populaire, les passions sont pour la chute du trône. Parce que bon, c'est impossible. Le roi a trahi et le roi n'a pas regagné la confiance et tous les plusieurs actes du roi, et en particulier par rapport aux veto successifs sur les prêtres, sur le camp sous Paris, etc. Il va aider à la chute de la monarchie. Et il va la manigancer, la manipuler, avec une idée géniale, c'est-à-dire que ça ne sera pas, dans son esprit, ça ne sera pas uniquement l'œuvre de Paris, puisque Paris a plus ou moins supprimé, a plus ou moins accaparé la Révolution depuis le 6 octobre 89, depuis que le roi est revenu, mais il va faire participer la province au travers des fédérés. Les régiments de fédérés qui viennent de Marseille et qui viennent de Brest, et il va faire croire, un peu comme le général de Gaulle fera croire que tout le monde était résistant en 1945, que c'est la province qui est venue aussi faire tomber la monarchie. Et cet homme, je le relisais récemment le philosophe René Girard, et il parle des gens qui sont là pour retenir, le catéchon en grec, voilà. Et Danton, c'est ça, c'est l'homme qui essaie de retenir, mais quand il ne peut plus retenir, il laisse aller pour essayer de réparer le plus vite possible, pour ne jamais apparaître comme un traître à l'égard du peuple et des furieux. Voilà. Et c'est ça son génie politique. C'est ça son génie politique qui peut être maléfique et qui a des aspects maléfiques, mais c'est son génie politique.
Oui, il y a cette très belle phrase de Michelet que vous reprenez. Hein. Michelet dit « L'individu ne fut rien, ce fut le peuple, mais nul ne s'y associa mieux qu'au Danton ». Et on a un peu le sentiment, c'est Cocteau, puisque ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, mais faisons surtout en sorte de les récupérer le lendemain. Ça, il le dit clairement. Oui, oui, en effet.
Ça va être encore plus clair dans le procès du roi.
D'accord.
J'expliquais qu'au départ, donc, Théodore de Lamette, qui est resté son ami monarchiste, qui se cache dans Paris, qui vient le voir et qui lui dit « Essaie de sauver le roi. Je vais sauver le roi, mais si je n'y arrive pas, je serai plus terrible que les autres », lui dit-il. Et le discours de Saint-Just, le 7 novembre 1792, qui est le discours où il faut condamner le roi parce qu'il faut condamner le symbole, hein, Totem et tabou de Freud, hein. Il faut le bouc émissaire innocent qu'on ne pourra pas venger et qui constatera la rupture. Et il s'y associe parce que, il faut le dire, c'est Danton qui condamne Louis XVI. Quand jusque à la mi-décembre 1792, il était question de condamner le roi, comme dans les tribunaux criminels, à une majorité des deux tiers.
Oui, c'est ça.
Hein? Et c'est lui qui impose la majorité de 50%. Mmh. Il condamne le roi.
Mmh. Oui, même si, quand même, il essaye de faire en sorte que Philippe Égalité ne vote pas, quand même.
Oui, mais c'était peu de choses par rapport à la décision, tout d'un coup, on savait que si c'était 50%, même en dépit des déchirements des Girondins, les Girondins à ce moment-là sont un peu pitoyables, ils partent dans tous les sens, et parce qu'il y a les principes philosophiques, on ne tue pas un homme et tout ça, et puis voilà. Et lui, il sait que il va le faire, c'est lui qui va le faire. Robespierre se planque hein, pendant ce truc-là.
Ce qui
va voter la mort, mais Robespierre ne parle pas beaucoup. Hein.
Non.
C'est Danton.
Ce qui est passionnant, c'est que tout le long du livre, on voit, même si c'est sous forme de spectre, on voit la relation Robespierre-Danton. Très, 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 très tôt, vous l'évoquez. Par exemple, vous dites... ça, c'est page 140, à propos du 10 août. Hein, l'impact des événements du 10 août dans leur relation entre Robespierre et Danton. Vous dites, ils sont déterminés tous les deux à composer avec la commune insurrectionnelle de Paris, mais sans rien lui céder, ils vont tenter de reprendre la main, chacun à leur manière, unis en apparence, mais déjà rivaux dans les faits. Et ça va même plus loin. C'est lorsque Danton... prend le ministère de la justice, donc le 10 août, Et vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est un peu comme la caricature de Montrand Clémenceau en 1917, ministre de tout, hein, vous savez, oui. dans, avec les différents uniformes, hein, Clémenceau à la marine, Clémenceau à l'intérieur, Clémenceau à la justice. Bon, c'est ça, Danton, hein, il s'occupe de tout, en plus de garde des Sceaux. Et voilà, voilà ce que dit Robespierre. Danton, prenant les Sceaux, il aurait dû se couper sa queue. Et on voit que assez rapidement, il y a une rivalité qui sourd entre deux. Ça ne peut que mal finir leur histoire.
Oui, parce que Danton, immédiatement, avec génie, il est nommé ministre. D'ailleurs, il est nommé. L'histoire est fabuleuse. Dans la nuit du 10 août, il est retourné dormir chez lui. Et ce sont ses copains, Fabre d'Églantine et Camille, qui vient lui dire « Tu es ministre !»« Ah bon ?» Il a été nommé ministre. Et il va accaparer l'exécutif, puisque les réunions du Conseil des ministres se tiendront dans le ministère de la Justice. C'est toujours Place Vendôme, c'est un des seuls qui n'a jamais bougé d'endroit. Il y a toujours le bureau de Danton, d'ailleurs. Mais il va comprendre très vite qu'il faut... Alors, parce que c'est une époque où plein de choses se passent. Chute de la monarchie le 10 août, massacre du 2 septembre.
Valmy.
Invasion prussienne du 2 septembre, prise de Verdun et de Longwy, et élection.
Oui.
Il y a les élections. Donc il est élu et il y a l'incompatibilité entre des fonctions ministérielles. Donc il va faire le choix, parce qu'il sait que c'est là où il est le plus puissant. Quoique son œuvre ministérielle de 70 jours est assez étonnante. Ouais. Hein, il réforme des tas de choses. Ouais, ouais. Mais alors là aussi, on a l'impression d'une bande de copains qui mettent un peu la main dans le pot. Fabre d'Églantine, Collot d'Herbois et voilà. Même ça appelle à jaser. Et il revient à l'Assemblée nationale. Il revient à l'Assemblée nationale dont il va être, et ensuite il y aura le comité de salut public où il va faire la même chose, comité de salut public qu'il va créer. C'est lui qui va le créer pour rassembler justement, chapeauter l'œuvre ministérielle, l'œuvre exécutive. Il va complètement sortir de sa sphère de compétence pour accaparer, comme Clémenceau, comme vous parliez de Clémenceau, accaparer la totalité du gouvernement.
Vous disiez que son fameux discours du 2 septembre, vous reprenez le texte, on n'a pas le temps de le lire, mais c'est page 181 et suivante, il faut à tout prix reprendre ce texte. Bon, c'est là qu'il y a cette fameuse formule, le tocsin que vous allez entendre n'est point... le signal d'alarme, c'est le pas de charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, pour les atterrer, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Donc vous comparez évidemment ce discours à la paix du 18 juin. Moi, je me disais aussi que ça ressemble au fameux grand discours de Churchill, le 18 juin, justement, aux communes, 24 minutes, non pas le du sang et des larmes, mais le grand discours où il dit nous dirons que nous avons vécu une époque formidable, quoi. Hein, ce qui c'est ce grand moment d'art oratoire. Et à un moment, dans votre texte, vous dites, tous les autres disent il faut quitter Paris, il faut passer la Loire, et vous dites c'est une espèce de tropisme français de Charles VII à Paul Reynaud, toujours l'idée de franchir la Loire. Ça, c'est très drôle. Oui.
Et le discours est formidable quand il dit à Roland, si tu désertes, c'est la fin de la République, etc. Ouais. Non, c'est l'homme qui tient, d'une main de fer et qui impressionne. Et quand les discours se terminent toujours par foutre, je les ai électrisés.
Ouais. Oui. Et là, vous parliez de moments de sympathie qu'il pouvait y avoir avec certains Girondins. c'est vrai que Vergniaud, qui était l'aigle de la Gironde, un très grand orateur, l'étreint en lui dit « tu as été extraordinaire ».
Et puis, alors, il y a des tentatives de conciliation. Il y a des, Michelet en parle. Il y a des à la Vallée aux Loups, là où plus tard viendra Chateaubriand, c'est la mère de Lucile Desmoulins. Il y a des tentatives de, mais c'est souvent les proches de Madame Roland qui empêchent chaque fois. Les et quand les Girondins vont être condamnés au mois de juin 1793, hein, parce qu'ils vont pas durer longtemps, les Girondins après. On va venir le supplier de les sauver et il dira ah ben non, ils ne m'ont jamais fait confiance.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, et pour et en même temps,
c'est un regret chez lui, c'est un regret et, parce qu'il voit très bien que la terreur arrive.
C'est ça. Et il y a un passage qui est très touchant. Comme vous avez été le grand historien de la Gironde, vous dites que Danton est un de ceux que la chute de la Gironde a le plus perturbé. Vous dites, page 350, il était trop fin, trop politique pour ne pas y voir le prolégomène de la terreur et par là même la fin du rêve qu'il poursuivait depuis toujours de voir les Français engagés ensemble dans l'œuvre d'édification d'une nation libre. Et vous dites, les yeux de Danton se portaient souvent sur les bancs tragiquement vides de la Gironde, en dépit de la résolution qu'il réitérait chaque jour de mourir jacobin, il se savait suspect. Aux yeux des plus exagérés, pour avoir par trop, lors de la longue agonie de la Gironde, montré son désir de maintenir l'union et multiplier les proclamations en faveur de la clémence. On a le sentiment, on a bien compris la manière avec laquelle il dit « j'ai pas pu empêcher les massacres du 2 septembre, je les assume, mais c'est pour garder la main sur la révolution ». On a le sentiment quand même que à partir de l'été 94, les choses lui échappent.
Il a le sentiment que on ne peut s'en sortir que par la clémence et il voit que ça dérape complètement de l'autre côté. Et c'est ça. Et donc il essaie le rôle qu'il joue dans la création du comité de salut public en avril 1793. C'est justement pour essayer de contenir la fureur, de contenir les débordements qui viennent du club des Jacobins, de recentrer l'action ministérielle. Et il va être très brillant. C'est lui qui va dans la salle verte du pavillon de Flore qui existe toujours, où se tient ce comité tous les matins. Neuf membres. C'est une sorte de directoire avant la lettre, puisqu'ils ont autorité sur les ministres, avec l'autorité pour réformer les actes des ministres et les suspendre. Et là, il prend la main. Et alors, ces neuf membres sont réélus chaque mois, et pendant quatre mois, il va régner. Et c'est le quatrième mois que Robespierre et toute sa bande vont l'évincer. Et c'est là où va commencer cette chute lente, avec les plus belles phrases qu'il va dire sur justement la clémence. On va le voir à la fin.
Oui, mais en même temps, on a le sentiment que Robespierre, qui est d'un cynisme absolu avec lui, il le traite toujours de vieil ami, de grand ami, mais il le ponctionne, j'allais dire, comme si on prenait le suc d'une personnalité. Il le vide de sa substance, non?
Alors, il y a un épisode très touchant dont il faut parler, c'est la mort de sa femme.
Oui.
Il revient, donc là, c'est début 1793. Il a eu quatre garçons de cette femme. Le premier est mort. Les deux du centre vont vivre jusqu'au milieu du 19e siècle. Hein. Et elle va mourir alors qu'il est en Belgique en train de surveiller l'armée de Dumouriez. Il a déjà du mal. Et quand il revient, elle est morte et elle est enterrée depuis quatre jours. Et il fait cette chose absolument incroyable. Il l'a fait déterrer, il l'a fait reporter sur son lit, et il reste couché à côté de ce cadavre pendant deux jours. D'un héros de la mort, qui est une chose absolument extraordinaire, et Alors, il est inconsolable. Il l'a fait mouler par... Il va chercher un sculpteur très, très, très louche parce qu'il a sculpté des aristocrates. Et ce buste existe toujours au musée de Troyes. Et deux mois après, il se remarie avec la jeune tutrice de ses enfants. C'est un des côtés les plus touchants. Parfois, moi, les lettres et la lettre que nous envoie Robespierre, elle vous tire les larmes des yeux. Si j'avais pu venir te prendre dans mes bras, je serais venu, etc. C'est un moment au milieu de cette horreur, un sentimentalisme débordant.
Mais alors, quand même, ce qu'on peut considérer comme la détestation progressive que Robespierre va nourrir à l'égard de Danton, là aussi, elle s'articule sur des arguments qui sont ceux, par exemple, Danton voulait une pureté révolutionnaire jusqu'à cette notion d'incorruptibilité, etc. Robespierre voulait ça. C'est...
Le problème de Danton, c'est qu'il est entouré de gens qui sont un peu douteux.
Oui.
Hein, donc, en particulier, son ami Delacroix et son ami Fabre d'Églantine, qui sont des gens qui tripotent très largement dans la caisse. Mais sa fidélité en amitié fait que tous ces gens vont mourir avec lui, mais il va les soutenir, puisque quand il n'est pas réélu au comité de salut public à l'automne de 1793, il va repartir à Arcy. Il va rester deux mois à Arcy. Et c'est là où il va apprendre l'exécution des Girondins, l'exécution de la reine. Et il y a des lettres déchirantes parce que un de ses amis triomphants vient lui dire: tu vas être content, on a exécuté les Girondins. Il lui dit: mais mon pauvre ami, mais tu racontes n'importe quoi, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Et quand il va voir que ses amis, ce sont surtout Fabre et surtout Delacroix, se sont compromis dans l'affaire de ce qu'on va appeler c'est une affaire très compliquée, mais c'était la liquidation de l'ancienne Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes, elle datait de l'As,
oui.
Et comme il fallait dissoudre, elle a été dissoute, et ce sont des affairistes épouvantables, dont mon compatriote avéronnais Chabot, qui était arrivé en sabot de l'Aveyron, et qui va s'en mettre plein les poches, et qui va même épouser, il était prêtre, hein, il va défroquer pour épouser la sœur d'un banquier juif. Pour continuer ses affaires. Et donc, le génie pervers de Robespierre va être de mélanger les accusations politiques contre Danton, le clémencisme, ce qu'on va appeler, et les affaires financières douteuses. Voilà. Et c'est comme ça que Danton sera guillotiné. Ils sont guillotinés à 15 personnes. Il y en a 5 qui sont les amis de Danton pour des raisons politiques et 10 qui sont pour des raisons de détournement de fonds. Il sera sali dans ce dernier procès. Il sera sali parce qu'on va mélanger les deux.
Oui. Et Fabre d'Églantine, d'ailleurs, est en prison pour prévarication au moment où Danton est arrêté. Il est en prison avant.
Ils sont déjà les autres. Oui. Et Danton aurait pu rester tranquille.
Oui.
C'est ça aussi le côté bonhomme, c'est qu'il aurait pu. Il aurait pu rester dans l'aube, se faire oublier comme Barnave s'est fait oublier jusqu'à un certain point, comme certains se sont fait oublier. Bon, ça aurait été peut-être plus difficile pour lui, mais il revient sauver ses amis. C'est son côté extrêmement sympathique. Même Hérault de Séchelles, qui est un personnage passionnant, alors lui, c'est le grand aristocrate, cousin des Polignac, qui passe sa vie à essayer de faire oublier qu'il a des origines aristocratiques. Mais il est déjà lui aussi il faisait partie du comité de salut public, et on obtient son éviction du comité de salut public et on le met en prison. Quand Danton quand Danton revient, il est à Fontenay chez son ancien beau-père, chez Monsieur Charpentier. C'est là qu'il va être arrêté. Presque tous ses amis sont déjà en prison.
Mais alors, on a l'impression qu'il voit, quand même pas venir l'arrestation. Il rassure ses amis en disant il y a une scène où vous les montrez là, Delacroix, Desmoulins lui-même. Eux, ils sont inquiets et Danton dit mais non, je risque rien, ça va bien se passer.
C'est qu'on n'osera pas s'en prendre à lui parce que il est populaire. Oui. Il est populaire puisque l'exécution de Danton, c'est la seule exécution où le peuple ne hurle pas à mort. Hein. Les gens sont sidérés et regarde passer le cortège, parce que Danton était populaire. Parce que Danton, c'était une force de la nature. Il était devenu parisien, il était champenois, mais il était devenu plus parisien que les parisiens. Et c'est...
La fin, c'est une scène digne des Rois maudits. C'est pas par rapprochement à Esprit d'escalier, c'est pas parce que Gérard Depardieu, incarné dans la série de Maurice Druon et de Marcel Bluval, le grand maître du temple, quand il est maudit, et c'est Depardieu qui incarne Danton chez Vaïda, mais quand il dit, le vrai Danton, le peuple déchirera mes ennemis par morceaux avant 3 mois, et il passe rue Saint-Honoré, devant la maison de Robespierre, et il dit « Robespierre, tu me suis, ta maison sera rasée, on y sèmera du sel ». Il y a une espèce de prophétie en disant « Vous allez me suivre ».
Voilà, 110 jours après, on coupe la tête de Robespierre. Mais jusqu'à la fin, c'est grandiose, il y a un côté shakespearien. Quand il veut embrasser Camille Desmoulins, au moment où Camille Desmoulins gravit les marches de... Et le bourreau les sépare. Et il lui dit, espèce de crétin, tu n'empêcheras pas nos lèvres de s'embrasser dans 3 minutes dans le panier.
C'est beau.
Il y a de la grandeur. Ouais. Il y a de la grandeur.
En fait, vous parliez de Shakespeare, c'est Falstaff aussi.
Et il avait traduit Shakespeare, puisque, comme je vous disais, il était un des seuls qui savait parler anglais et qui savait parler italien. Sa dyslexie l'empêchait sûrement d'écrire, mais
Voilà, bah écoutez, on a tout dit. Hein. Il y a un côté opéra italien, hein, presque à la limite du Pavarotti. Hein. C'est aussi Shakespeare. Enfin, et Vaïda, on n'a pas le temps d'en parler, mais on renvoie à ce très beau film, 1982, Andrzej Wajda, hein, Danton. Danton, bonhomme ou démon, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Jean-Paul Desprats. Merci.
Et merci à vous. Merci.